Est-ce qu'il y a des gens qui veulent entendre la parole de Dieu? Amen. Donc, vous savez qu'est-ce qu'on va faire. On va faire notre déclaration. Je vous invite à prendre votre Bible entre vos mains. Si vous n'avez pas une Bible, il y a une feuille avec presque tous les versets. Aujourd'hui, c'est même jaune, donc c'est pas facile à manquer. On va faire cette déclaration parce que la Bible nous enseigne que ce qu'on dit avec la bouche, hein, et ce qu'on croit avec notre cœur, s'accomplira. C'est un principe biblique. Si tu confesses avec la bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, on va prendre nos Bibles, on va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Est-ce que vous croyez ça? Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai pour toujours et à jamais et pour éternité changé et transformé de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, ce matin, on va prendre juste quelques minutes et on va parler des choses importantes. C'est le début d'une nouvelle année. Et est-ce qu'il y a des gens qui ont hâte de voir qu'est-ce que 2005 va révéler pour nous? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont peut-être un peu peur de qu'est-ce que 2005 va présenter? J'espère que non. Parce que la peur, la crainte ne devrait pas être vraiment dans le vocabulaire d'un croyant parce que l'amour parfait de Dieu bannit la crainte. Amen. Et c'est sûr que nous vivons dans un monde qui est assez, on pourrait dire, bousculé et même bouleversé. On regarde les événements en Asie dernièrement et c'est assez grave. On voit plus de 100 000 personnes qui ont perdu leur vie. C'est horrible, n'est-ce pas? Imagine, il y a juste à Drummondville, si on compte pas San Ysidre et tous les autres, on a une cinquantaine de milliers de personnes, 50 000 personnes à peu près. Donc imagine que si d'un jour... Du jour au lendemain, si toute la ville de Drummondville serait morte. Deux fois, c'est quelque chose, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui s'est passé dans ces pays. C'est affreux, c'est effrayant même. Pour une personne qui ne connaît pas le Seigneur, ça peut même faire peur de regarder ça ou de penser à ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc, et qu'est-ce qu'on sait? C'est que selon Jésus, les événements comme ça, les famines, même les guerres, les bruits de guerre, les tremblements de terre, toutes ces choses vont être accélérées dans les derniers jours. Donc, si on croit à cela, et c'est vrai, par exemple, que même dans le 20e siècle, on vient de commencer le 21e siècle, mais ceux qui étudient comme les tempêtes et les phénomènes naturels, ils ont dit qu'on a eu plus de ces genres de désastres juste dans le 20e siècle, dans les dernières 100 ans, de l'existence de l'humanité, que dans toutes les autres périodes de l'humanité, même mises ensemble. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Il y a des choses qui se passent. Les choses sont en train de brasser, on pourrait dire. Et tout ce qui peut être secoué va être secoué. Donc, je dis cela parce que je ne veux pas juste me tenir debout ce matin en disant, bon, 2005, ça va être une belle année, tout va être merveilleux et agréable dans le monde entier, parce que j'ai des grands doutes là-dessus. Je pense bien qu'on va voir les choses qui vont brasser, probablement. Je ne suis pas en train de prophétiser cela, mais je sais que même si on regarde naturellement, il y a il y a des choses qui se passent qui ne sont pas agréables. Mais le but du message ce matin, c'est que peu importe qu'est-ce qui se passe dans le monde, peu importe si le monde est bousculé ou bouleversé même, nous pouvons quand même avoir la paix au milieu d'un monde bousculé. Amen?
Amen.
Et c'est ça que j'avais dans mon cœur pour ce matin, de juste vous exhorter. Comment nous, ensemble, en tant qu'individus, mais aussi en tant qu'église collective, comment est-ce qu'on peut avoir une année de paix dans un monde bouleversé? Parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu a fait une alliance de paix avec nous. Jésus est venu, on a parlé de ça la semaine passée, hein? Un fils nous a été donné. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Le gouvernement serait sur ses épaules, mais il est appelé aussi, un de ses noms, c'est Prince de paix. Amen. Et on a parlé de cette paix qui vient de Dieu. On a dit que la paix de Dieu, en hébreu, c'est shalom. Tout le monde dit shalom. Et on sait qu'est-ce que cela veut dire, shalom. C'est pas juste l'absence de la guerre. Souvent, on parle de la paix, on dit, bon, s'il n'y a pas de chicane, s'il n'y a pas de guerre, on a la paix. Mais pas selon Dieu. Quand Dieu parle de la paix, il parle de quelque chose qui est beaucoup plus profond, quelque chose qui est beaucoup plus puissant que cela. La paix de Dieu, c'est le shalom de Dieu. C'est là où on est dans un état où rien est brisé et rien manque. Amen? Tout le monde dit rien de brisé et rien qui manque. Tout le monde regarde ton voisin et ta voisine et dit shalom. Et maintenant, regarde l'autre personne à l'autre côté et dit shalom. Alléluia. Ésaïe 54, verset 11, 10, pardon, dit ceci. Est-ce que vous êtes prêts? Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, ou on peut dire quand les tremblements de terre ou quand les vagues de la mer envahissent les pays, les nations, peu importe qu'est-ce qui se passe, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix, tout le monde dit mon alliance de paix, ne chancellera point de l'Éternel qui a compassion de toi. N'est-ce pas bon de savoir que l'amour de Dieu ne va jamais s'éloigner de nous et qu'il a toujours compassion de nous? Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes content d'être là ce matin?
Oui.
Amen. Il y a quelques visages qui ont l'air un peu fatigués. Hein? Vous avez trop fêté. Hein? Réveille-toi. Le jour de l'an est terminé. Malheureuse, battue de la tempête. C'est une bonne description de beaucoup de monde aujourd'hui, n'est-ce pas? Et que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, et toute ton enceinte des pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. J'aimerais que tu soulignes ce mot prospérité. Est-ce que quelqu'un peut deviner c'est quoi ce mot en hébreu? Hein? C'est shalom. C'est shalom. Grand sera le shalom de tes fils. Parce que vois-tu encore, ça me montre que quand on parle de la paix selon Dieu, c'est pas juste l'absence de la guerre, mais c'est une prospérité totale. Rien de brisé et rien qui manque. C'est pourquoi quand Jésus est venu sur la terre, il a dit, hein, les anges, qu'est-ce que les anges ont chanté? La paix sur la terre. Que rien soit brisé sur la terre et que rien manque sur la terre. Et Jésus est le prince de la paix. Quand Jésus va venir régner pendant 1000 ans, on n'aura rien de brisé et rien qui manque. Amen. Mais entre-temps, nous avons quand même une alliance de shalom, une alliance de paix, une alliance où Dieu veut qu'on vive dans un état où rien n'est brisé et rien manque pour qu'on puisse être la lumière du monde et le sel de la terre. C'est-à-dire que quand les montagnes chancellent et quand tout est bouleversé dans les finances et dans la nature et quand tout est bousculé et brassé autour de nous, le monde qui est énervé, effrayé, dans la peur, ils vont regarder et voir une église qui luit dans ce monde comme des flambeaux au milieu d'une génération perverse. Et ils vont voir qu'il y a une paix chez les chrétiens. Ils vont voir le shalom chez les chrétiens. Et ils vont dire, c'est ça que je veux, c'est ça que je désire, c'est ça dont j'ai besoin. Et moi, je suis convaincu, on aura besoin de plus de chaises, effectivement, parce que les gens vont voir la paix à la vie comblée. Amen. Ils vont voir le shalom, ils vont voir une église où rien n'est brisé et rien manque. C'est ça le plan de Dieu. On va continuer ici. Et grande sera le shalom ou la prospérité de tes fils. Verset 14, tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. N'est-ce pas bon de savoir? Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme pour son travail, par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Soyez pas étonnés si en 2005 vous voyez les armes formées contre toi. Soyez pas étonnés si vous avez des épreuves. Soyez pas étonnés s'il y a des moments où vous avez besoin de marcher par la foi et non par la vue. Amen? Mais bannis l'inquiétude. Vous n'avez rien à craindre. Car Dieu a formé le destructeur même pour briser ces choses. Il y a une puissance de Dieu à notre disposition et nous pouvons tenir bon même contre les épreuves et les armes formées contre nous. Amen? Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. N'oubliez pas que ça se peut bien qu'il y a des gens. Et de plus en plus, nous voyons dans ce monde que les lignes sont tracées. Je parlais avec mes parents sont ici, je suis bien content de les avoir avec nous pour quelques jours. Mais on parlait avec eux juste il y a quelques jours, que même aux États-Unis, on voit que la ligne est vraiment tracée entre les chrétiens et les non-chrétiens. On voit que c'est plus une question d'avoir une place grise, mais il faut vraiment choisir. Est-ce que tu es enfant de Dieu ou non? Parce que vraiment, les lignes sont bien démarquées. Et de plus en plus, on va voir cela même, je crois, au Canada. Les gens qui vont prendre position pour les ténèbres, mais nous avons besoin de prendre position pour la lumière. Et ça se peut bien qu'on va voir les langues qui vont s'élever contre nous en justice, mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va se plier? Est-ce qu'on va se taire? Est-ce qu'on va s'asseoir et croiser les bras et dire, bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On va juste attendre l'enlèvement? Ou est-ce qu'on va prendre notre place en tant qu'Église et vivre dans le shalom de Dieu, la paix de Dieu, une église où rien n'est brisé, rien qui manque, et on va prendre notre autorité et on va condamner ces langues qui s'élèvent contre nous en justice. C'est à nous. La Bible ne dit pas que Dieu va les condamner, mais nous allons le faire. Amen. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, de l'Éternel. Amen. La paix, shalom, rien de brisé et rien qui manque. Alléluia. Ce dont le monde a besoin aujourd'hui, plus que toute autre chose, c'est le shalom de Dieu. Dieu est un Dieu de shalom, il est un Dieu de paix. Et même si on regarde dans vos notes, j'ai mis un verset en Romains chapitre 10. 2005 va être une année, et je crois que probablement la semaine prochaine, probablement, je vais partager un peu plus en détail la vision spécifique et les objectifs qu'on veut atteindre pour l'année 2005. Mais aujourd'hui, je veux juste vous exhorter à vous réveiller à cette idée que Dieu veut qu'on vit dans la paix, même si le monde est bouleversé autour de nous. Mais il y a un verset en Romains 10 qui nous montre un peu notre devoir en 2005. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Est-ce que il y a des gens qui croient que Dieu veut que le monde entier soit sauvé? Dieu n'est pas heureux, il n'est pas content, il ne prend pas plaisir quand il voit le méchant disparaître. En fait, la Bible dit que Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Quand les personnes ont perdu la vie en Asie, et on pourrait probablement croire qu'un bon pourcentage des personnes n'étaient pas nées de nouveau, Dieu n'était pas tellement content. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dieu veut que ces personnes soient sauvées. Mais il veut que toute votre parenté soit sauvée. Il veut que tout notre voisinage soit sauvé. Il veut que la ville entière et la province entière, que tous les pays francophones soient sauvés. Amen. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. S'ils vont être sauvés, il faut qu'ils invoquent le nom du Seigneur. Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Pour être sauvé, il faut invoquer. Pour invoquer, il faut croire. Pour croire, il faut entendre. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Pour entendre, il faut prêcher. Amen. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la quoi? La paix. de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et c'est qui écrit ce verset-là? Il a écrit en grec, je sais, mais c'est un juif qui écrit cela. Et en fait, il est en train de citer un verset d'Écriture en Ésaïe. Il est en train de citer Ésaïe. Ésaïe qui a dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, qui annoncent le shalom de Dieu. C'est quoi notre rôle? Le monde a besoin d'entendre la bonne nouvelle, et la bonne nouvelle, c'est que Dieu est un Dieu de shalom. Dieu est un Dieu qui peut restaurer. Il est un Dieu qui peut délivrer. Il est un Dieu qui peut amener la paix là où il y avait l'absence de la paix. Là où les choses sont brisées, Dieu peut les réparer. Là où les choses manquent, Dieu peut les pourvoir. Dieu est un Dieu de shalom. Et si Dieu est un Dieu de shalom, nous sommes une église de shalom, et notre message, c'est un message de shalom. Ce n'est pas juste un message de « vous êtes des méchants pécheurs, vous avez besoin de vous repentir ». Est-ce que c'est vrai? Oui. Mais est-ce que c'est toute la bonne nouvelle? Non. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu donner sa vie. Et Jésus est venu annoncer la paix. Il est le prince de la paix. La bonne nouvelle qu'on a annoncée, c'est que quand les gens autour de nous ils vivent dans un monde brisé, où toutes les choses manquent, on peut arriver sur la scène et annoncer une bonne nouvelle. C'est que Dieu vous aime, Dieu veut vous, pas juste vous sauver, mais il veut vous guérir, il veut pourvoir vos besoins. Dieu vous aime, il est un Dieu de shalom. Combien de vous êtes d'accord que ça va être beaucoup plus attirant? Les gens vont être attirés quand ils voient une église qui vit dans le shalom de Dieu. Quand vous, en tant qu'individu, vous avez la paix dans votre cœur, dans votre âme, dans vos pensées, dans votre corps, dans votre famille. Amen. On a même dit dans notre famille, on a commencé à dire, hein, c'est 2005. Et 2005, on n'a pas de chicane à la maison, hein? On va avoir une année de paix. On va avoir une année de shalom. Rien de brisé, rien qui manque. Pas de relation de brisé. Rien qui manque dans nos relations, rien qui manque dans nos finances, rien qui manque dans notre santé aussi. C'est ça que je veux. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Et Dieu le veut plus que vous le désirez. Dieu est un Dieu de shalom. Amen? Mais ça m'a vraiment frappé quand j'ai lu cela. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Regardez vos pieds, si tout le monde, hein? Et dites qu'ils sont beaux. Pourquoi? Vos pieds sont seulement beaux, dans le fond, quand vous annoncez le shalom de Dieu. Quand vous êtes un messager de shalom. Quand vous êtes un messager de restauration. Et en fait, ce mot « shalom », encore, c'est le mot « prospérité » qui peut le décrire, mais aussi le mot « complet ». Dieu est un Dieu qui a donné un rétablissement total pour l'homme entier. Amen? On voit, par exemple, dans les Actes des Apôtres, on voit le boiteux, un homme qui n'a pas marché depuis sa naissance, il avait plus de 40 ans, il n'a jamais marché, mais quand il a rencontré Pierre et Jean, et quand Pierre et Jean ont dit, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Il s'est levé debout, il commençait à sauter même, et à danser, à courir, il a reçu la force dont il avait besoin, la force qui lui manquait, lui a été restaurée. Et là, en fait, la Bible dit, que Pierre et Jean ont dit, cet homme que vous voyez, c'est par le nom de Jésus, par la foi en son nom, que cet homme que tu vois est devant vous, et c'est marqué qu'il est complet ou qu'il est en complète santé. Il n'y a rien qui manque. Cet homme est en shalom aujourd'hui. Dieu est un Dieu de shalom. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient vivre une année de shalom? Alléluia. Comment est-ce qu'on peut le faire? Il y a des instructions très, très, très claires en Philippiens chapitre 4. Trois choses qu'on peut faire pour vivre dans une paix parfaite. Regardons Philippiens chapitre 4, verset 6. Est-ce que tout le monde est là? Ici encore, c'est l'apôtre Paul qui écrit. Et n'oubliez pas que si on regarde les circonstances naturelles de Paul, les choses ne regardaient pas trop bien pour lui. Il est prisonnier. Il est en prison. Pourtant, même dans la prison, Dieu a pourvu à ses besoins. Dieu lui a donné la joie, lui a donné tout ce qu'il avait besoin pour vaincre. Amen. Il dit ceci en verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, encore, c'est un juif qui écrit, et quand Paul écrivait « paix », même s'il écrivait en grec, je suis sûr et certain que dans son cœur et dans ses pensées, il pensait « shalom ». Amen. Et le shalom de Dieu qui surpasse toute intelligence. Vous savez que le shalom de Dieu, vous pouvez même pas concevoir dans votre petit cerveau, dans ton petit coco, on pourrait dire. Il serait impossible pour vous de saisir la plénitude de shalom. Ça dépasse. Ça dépasse. Quand on est en Dieu, on est en paix. Quand on est dans la présence de Dieu, rien ne peut être brisé et rien ne peut manquer. Il est impossible d'être dans la présence de Dieu et avoir quelque chose de brisé et quelque chose qui manque. Parce que c'est lui qui est notre récompense, n'est-ce pas? Imaginez, est-ce que vous croyez qu'on va avoir des personnes malades au ciel? Est-ce qu'on va avoir des personnes qui sont privées, qui sont pauvres au ciel? Non! Parce que Dieu est un Dieu de paix, un Dieu de shalom. Et son royaume, c'est un royaume de shalom. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Mais il dit, et la paix, le shalom de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ici, on a une bonne recette pour comment vous et moi, nous pouvons vivre dans la paix, même au milieu d'un monde bouleversé. Et la première chose, c'est simple, c'est clair. Je n'ai pas dit que c'est facile, mais c'est simple. Première chose, si vous voulez vivre dans la paix, bannir l'inquiétude de votre vie. Il est impossible d'être dans la paix et d'être inquiet en même temps. Est-ce qu'il y a des gens qui sont au courant que s'inquiéter, c'est un péché? Souvent, on pense que l'adultère, le vol, l'ivrognerie, ces choses-là, ça c'est le péché. Mais on ne pense pas que être inquiet, c'est un péché aussi. Pourquoi? Parce que quand on est inquiet, ça montre qu'on ne fait pas confiance à Dieu pour pourvoir nos besoins. Si quelque chose est brisé ou on a peur que quelque chose va manquer dans notre vie, dans le fond, si on est inquiet, pourquoi est-ce qu'on est inquiet? On a peur que quelque chose va être brisé, peut-être une relation va être brisée, peut-être notre santé va être brisée, peut-être nos filles, quelque chose va manquer, n'est-ce pas? Oh, je ne sais pas si je vais être capable de payer Hydro-Québec ce mois-ci. Il y a peut-être quelque chose qui va manquer. N'est-ce pas? Quelque chose peut être brisé, quelque chose va manquer. J'ai peur, je suis inquiet. Mais ici, la Bible dit, bannis l'inquiétude. Ne vous inquiétez de rien. Et première chose, si on veut vivre dans la shalom de Dieu, on ne peut pas être inquiet et avoir le shalom en même temps. Et à certains de nous, on a des mauvaises habitudes. Vous savez, s'inquiéter, ça peut être comme une habitude. Le diable ne peut pas inventer quoi que ce soit. Tout ce qu'il peut faire, c'est prendre une chose qui est vraie et le tordre. Vous êtes d'accord? C'est quoi inquiéter? Dans le fond, c'est la méditation autour de Dieu. Dieu veut qu'on soit des personnes qui méditent la vérité. Méditer veut dire de murmurer, de dire la même chose encore et encore, de penser à ce qu'on dit, mais de murmurer la bonne chose. On va méditer la parole de Dieu jour et nuit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. C'est l'Éternel qui est mon berger. Vous savez, il y a tellement de façons qu'on peut méditer et on peut le dire avec notre bouche, on peut le croire avec notre cœur. Et on peut le dire et le dire et le dire. Ça, c'est méditer. S'inquiéter, c'est que la facture est élevée. Mon compte de banque est baissé. Je vais sûrement en manquer. Vous savez? Donc, qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que vous... Il faut bannir l'inquiétude et remplacer l'inquiétude avec la méditation de la parole de Dieu. Il y a des gens qui commencent à tousser autour de vous. C'est la saison de la grippe. Je vais sûrement attraper des microbes. Je vais sûrement tomber malade. Je vais sûrement être au lit pendant une semaine. Je vais sûrement manquer du travail. Je serai sûrement viré. Je serai sûrement dans le trouble financier. Je vais peut-être pas être capable de payer mon facture. Je vais être sans abri dans 2 mois. Vous savez la puissance de l'inquiétude? Et j'ai pris un exemple extrême. Mais savez-vous, inquiéter, c'est un péché. Et cette année, je crois que le Seigneur, il veut qu'on soit établi, enraciné, pour que quand on entend les nouvelles, quand les choses sont annoncées, qu'est-ce qui s'est passé à telle place, ou qu'est-ce qui s'est passé dans notre ville, les problèmes qui se passent autour de nous, on va être quand même ancré dans le shalom de Dieu. Amen. On va être capable de faire comme Jésus, au milieu de la tempête, qui est endormi sur le coussin en arrière du bateau. Et les disciples ont dit, « Seigneur, n'es-tu pas inquiet? » Et qu'est-ce qu'il a dit? « Oh, Jean, de peu de foi. » Il a menacé les vents. Et... Gloire à Dieu. Amen. Bannir l'inquiétude de votre vie. Comment est-ce qu'on peut bannir l'inquiétude? 2 choses. Il faut recevoir une révélation de son amour. Si vous savez jusqu'à quel point Dieu vous aime, vous ne pouvez pas être inquiet. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Dieu nous aime. Est-ce que vous aimez vos enfants, ceux qui sont parents? Est-ce que vous voulez que vos enfants soient dans la disette, dans la pauvreté, dans la misère? Ou est-ce que vous voulez que vos enfants, vos fils et vos filles soient dans la prospérité? Est-ce qu'il y a un parent ici qui veut que ses enfants souffrent vraiment? Est-ce qu'il y a un enfant qui veut abandonner ses enfants? Un parent qui veut abandonner ses enfants? Et si nous, étant les parents terrestres, naturels, si nous savons donner des bonnes choses et faire des bonnes choses pour nos enfants, à combien plus fort raison notre Père céleste ne donnera-t-il pas toutes choses? Il nous a déjà donné toutes choses. Il a donné son Fils. Il ne peut pas rien donner de plus que Jésus. Comment ne donnera-t-il pas toutes choses pleinement avec lui? On n'a rien à craindre. On ne devrait jamais avoir peur de manquer. On ne devrait jamais avoir peur d'avoir des choses brisées parce que Dieu nous aime. Et c'est son amour qui va nous aider à bannir. En fait, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Mais la deuxième chose, c'est qu'il faut être affermi par la justice. On a vu ça en verset 13 de notre texte principal. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. C'est quoi la justice? La justice, c'est notre position légale devant Dieu. Le fait que nous sommes en règle avec Dieu. Que quand Dieu nous regarde, il ne voit plus un pécheur sauvé par la grâce, mais il voit quelqu'un qui était autrefois pécheur, qui est aujourd'hui une nouvelle création, qui est en règle avec Dieu. Et nous sommes aussi justes que Jésus lui-même par la grâce. La justice est un don de Dieu. Et quand vous réalisez une fois pour toutes votre position dans Jésus-Christ, que vous êtes dans la famille royale, que Dieu vous aime, vous saurez que Dieu ne va jamais vous abandonner. Vous n'avez rien à craindre. Amen. Donc, si vous avez de la peur, si vous avez un problème avec l'inquiétude, méditez les versets de la Bible qui parlent de son amour pour vous. Et méditez les versets qui parlent de votre position dans Jésus-Christ, que vous êtes la justice de Dieu et que Dieu vous aime autant qu'il aime Jésus. Amen. Dieu, le Père, vous aime autant qu'il aime Jésus. Et si vous êtes établi dans votre justice, vous n'aurez plus rien à craindre. L'œuvre, en fait, verset 17 de Ésaïe 32 dit ceci. L'œuvre de la justice sera le shalom. Et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Tout le monde dit repos et sécurité. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, de le shalom. Mon peuple demeurera dans le séjour du shalom, où rien n'est brisé, rien qui manque, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Amen. Deuxième chose, selon Philippiens chapitre 4, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc, numéro 2, faites connaître vos besoins à Dieu. On parle de comment avoir une année de paix, de shalom, dans un monde bouleversé. Première chose, il faut bannir l'inquiétude. Vous n'avez plus le droit de vous inquiéter. Vous devrez vous... Mais dire, vous n'avez plus le droit de vous inquiéter. Parce que Dieu vous aime et vous êtes la justice de Dieu. Et deuxième chose, il faut apprendre, au lieu d'être inquiet et de méditer le mal, il faut apprendre à faire connaître vos besoins à Dieu. Vous avez besoin de quelque chose? Laisse-moi vous dire une chose, je vais vous donner un indice. Dieu le sait déjà. Votre Père sait, avant que vous demandiez, il sait déjà ce dont vous avez besoin. Et il y a des gens qui vont dire, « Oh, mais vous savez, mais la Bible dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. » Et c'est vrai. Et il y a des gens qui vont dire, c'est parce que Dieu, il sait déjà, mais il veut que vous parliez avec lui, il veut avoir la communion avec vous, c'est pourquoi il faut demander. Peut-être c'est vrai, mais ce n'est pas la seule raison qu'il faut demander. Il faut demander parce qu'il y a des lois spirituelles. Et aussi longtemps qu'on vit sur cette terre, il y a certaines choses que même si c'est la volonté de Dieu, un homme sur la terre a besoin de demander au Père qui est dans les cieux, au nom de Jésus, pour que ces choses soient déclenchées ici sur la terre. Et Dieu, votre Père, votre Papa, qui est tellement bon, c'est un Dieu de shalom, qui veut que rien ne soit brisé, qu'il rien manque dans votre vie. Il est là, il est le Père des Lumières, il ne change pas. Il est toujours bon, tout don parfait, toute grâce excellente vient de Dieu, le Père des Lumières. Il est prêt à vous bénir et tout ce qui manque, c'est qu'il faut que vous lui demandiez. Amen? Donc, en 2005, je crois qu'il va falloir qu'on apprenne à demander davantage. Mais, avertissement. Jacques 4 dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos plaisirs. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que si on va demander, il faut être sûr qu'on demande pour les bonnes raisons. Pas juste parce qu'on est égoïste, pas juste parce qu'on veut des choses pour soi-même, mais parce qu'on aime Dieu et on veut servir Dieu. Amen? Mais si on a cette bonne relation avec Dieu et notre motivation du cœur est juste et correcte, on devrait vivre cette année avec l'assurance que si j'ai besoin de quelque chose, je peux demander à mon Père Céleste et il va pourvoir ce dont j'ai besoin. Jésus a dit, demeurez à moi, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent à vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Par ceci, et mon Père sera glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits. Le Père, il veut vous donner des choses. Donc, au lieu d'être inquiet, au lieu d'être jaloux, parce que souvent, ça arrive aussi, on voit d'autres personnes qui sont bénies, qui sont en santé, qui ont des relations qui marchent bien, ou qui ont des bénédictions quelconques, et des fois, on a une tendance à être jaloux. Au lieu d'être jaloux, on devrait dire, merci Seigneur, tu as béni mon frère, tu as béni ma sœur, mais Seigneur, j'ai besoin de telle chose, je te remercie pour telle chose, en sachant que vous allez le recevoir. Pas juste que vous allez le recevoir, mais selon la Bible, en Jean chapitre 5 dit ceci, et je pense que je l'ai mis dans vos notes, en Jean 5, 14, dans la parole vivante, dit, c'est pourquoi nous pouvons nous approcher de Dieu avec une joyeuse assurance. Tout le monde dit une joyeuse assurance. Nous sommes certains. Ça, c'est pas mal positif, n'est-ce pas? C'est pas marqué. Nous pensons que peut-être, si tout va bien, s'il n'y a pas d'inconvénients, mais nous sommes certains que si nous demandons ce qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons en même temps la certitude, tout le monde dit certitude,
que l'objet de nos demandes, quel qu'il soit, nous est déjà. Comment on dit déjà? Déjà acquis. Est-ce que vous êtes d'accord que la plupart de nous, dans l'Église, on a besoin de grandir dans notre foi? Parce que la plupart de nous, on prie toujours avec espérance, on ne prie pas encore avec foi. L'espérance dit, j'espère que peut-être ça va un jour être accordé. Mais la prière de la foi dit, je crois que je l'ai déjà reçu parce que je sais que j'ai demandé une chose selon la volonté de Dieu. Et comment est-ce qu'on sait si c'est la volonté de Dieu? Non, on demande les choses qui sont promises dans les Écritures. Aussi longtemps que vous demandez une chose qui est promise dans les Écritures, vous pouvez être sûr et certain que c'est la volonté de Dieu pour vous de l'avoir. Mais en 2005, ce n'est pas une question, laissez-moi vous dire, il se peut bien, et je ressens un peu du prophétique en ce que je vais dire, il se peut bien qu'en 2005, ce n'est pas juste une question de votre bonheur, mais ça peut être une question de la vie et la mort pour plusieurs en 2005. Amen? Ce n'est pas une question. Et quand je dis la vie et la mort, ce n'est pas forcément votre vie physique et votre. Mais ça se peut aussi. Mais la vérité, c'est que le monde est en train de périr autour de nous. Et c'est une question de la vie et la mort, pas juste pour nous, mais pour les perdus. Il y a des choses que nous avons besoin de recevoir dans la prière. Pas pour nous, pas pour satisfaire à nos plaisirs, mais on a besoin de recevoir certaines choses afin d'être dans une position de manifester le shalom, la paix de Dieu, pour atteindre le monde périssant. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Si le Seigneur dit, je veux que telle et telle personne prenne un voyage en telle place pour prêcher l'Évangile à telle personne, comment est-ce qu'ils peuvent invoquer ceux en qui ils n'ont pas cru? Comment est-ce qu'ils peuvent croire en ceux qui n'ont pas entendu? Comment est-ce qu'ils peuvent entendre, hein? Si quelqu'un a prêché, comment est-ce qu'ils peuvent prêcher si personne les a envoyés? Donc, vous savez, ce n'est pas une question d'une petite vie égoïste. C'est une question de vivre dans le shalom de Dieu pour le royaume de Dieu et pour la gloire de Dieu. Il y a des choses que si le Seigneur dit, je veux que telle personne aille en telle place et il a besoin de tant d'argent pour acheter son billet, ça va, il faut prier et recevoir cet argent pour ce billet. Sinon, il y a d'autres personnes qui vont périr. Question de vie et la mort. Amen? Et ça peut être autre chose. Il y a des personnes qui sont malades et vous avez besoin de recevoir la guérison. Pourquoi? Pour vous, c'est bien. On veut vous garder ici. Mais on sait que, comme Paul l'a dit, ça serait plus agréable pour vous d'aller au ciel maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord que la vie au ciel est beaucoup plus agréable qu'ici sur la terre? Mais c'est plus avantageux. Vous allez porter beaucoup plus de fruits si vous recevez votre guérison. Vous demandez la guérison, vous recevez la guérison. Et c'est une question de la vie et la mort, pas pour vous seulement, mais pour les autres personnes que vous allez toucher à travers votre vie. Donc, il faut vivre comme ça. Seigneur, je ne suis pas inquiet. C'est toi qui es mon Dieu. C'est toi qui m'aimes. Je suis la justice de Dieu. Et Seigneur, si j'ai besoin de quelque chose pour faire ta volonté, Seigneur, je sais que je peux demander et j'ai reçu déjà les choses qu'on a demandées. Une pleine provision. Il a été prophétisé il y a 2 ans que l'année 2005 serait une année de jugement. Mais si on se juge soi-même, on ne serait pas jugé. Autres personnes ont dit aussi que ça serait quand même une année où on va voir un superflu. Un superflu dans la manifestation des dons de l'esprit et le surnaturel, mais un superflu aussi de la provision de Dieu. Et j'y crois. Mais la provision, ce n'est pas pour une petite vie égoïste. La provision, c'est pour la moisson. La provision, c'est pour la vision. Amen. Donc, on a besoin d'arriver à cette place où on n'est plus inquiet, mais on sait comment demander les choses qui nous appartiennent, les recevoir et les mettre au service du corps de Christ. Amen. Alléluia. Troisième chose, Philippiens 4 a dit encore, ne vous inquiétez de rien. Il a dit, faites connaître toutes vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et voici une clé avec des actions de grâce. Une fois que vous avez demandé, commencez à remercier le Seigneur. Vous n'avez pas besoin de prier 10 000 fois pour la même chose, mais remerciez le Seigneur que c'est fait, même avant de voir la manifestation. C'est un principe biblique. Et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tout le monde dit pensées. Vous voulez vivre dans le shalom cette année? Pour vivre dans le shalom, il faut penser shalom. Il y a un verset en 3 Jean 2 qui dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. » Et on sait qu'en hébreu, prospérité, shalom, c'est la même chose aussi. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Ton âme, c'est ton intellect, tes émotions et ta volonté. Et Dieu dit ici que si tu vas prospérer, être dans un état de shalom, où rien n'est brisé et rien manque dans votre vie, et si tu veux être en bonne santé, que d'abord, avant toute autre chose, il faut que tu sois prospère dans ton âme. Il faut, dans votre façon de penser, que vous pensez shalom. Vos pensées sont infiltrées par le shalom de Dieu. Si vous pensez toujours, je suis un petit bon à rien, si vous pensez toujours, je ne peux pas faire grand chose, je ne vais jamais avoir grand chose dans la vie, je suis né pour un petit pain, etc., etc., qu'est-ce que vous allez avoir? Un petit pain. Qu'est-ce que vous allez faire? Pas grand chose. Mais si vous commencez à penser shalom, Seigneur, je suis la justice de Dieu, tu m'as créé en ton image, je suis créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que tu as préparées en avance. Seigneur, je peux faire des grandes choses. Et Seigneur, tout ce que tu me demandes de faire, avec la vision, tu donnes toujours la provision. Amen? Je peux avoir tout ce dont j'ai besoin dans la vie. Il faut penser shalom. Et quand vous pensez shalom, shalom va se manifester dans votre vie. Mais il faut penser. Regarde bien, il y a quelques versets. Psaume 119, 165 dit ceci. Il y a beaucoup de shalom pour ceux qui aiment ta loi. Beaucoup de paix. Beaucoup de shalom pour ceux qui aiment ta loi. Est-ce que vous êtes content d'avoir une Bible? Ceux qui aiment la Bible, ceux qui aiment la parole de Dieu, ceux qui aiment la loi de Dieu vont avoir beaucoup de shalom. Rien ne va être brisé, rien ne va manquer dans leur vie. C'est pas moi qui invente cela, c'est la parole, n'est-ce pas? Tu garderas dans une paix parfaite. Tout le monde dit une paix parfaite. L'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Dans la Bible anglaise, c'est marqué que tu vas le garder dans une paix parfaite, celui qui pense continuellement à toi. Celui qui pense, celui dont les pensées sont fixées sur Dieu, vont avoir une paix parfaite. Pourquoi c'est traduit paix parfaite? Savez-vous c'est quoi en hébreu? Shalom, shalom. Il va garder un shalom, shalom. Il va garder dans un état où rien n'est brisé. Pensez à ça. C'est une paix parfaite. Shalom, c'est rien de brisé, rien qui manque. Mais il n'y a rien de brisé et rien qui manque dans le rien de brisé et rien qui manque. C'est une shalom, shalom, un double shalom. Qui? Celui qui pense continuellement à Dieu et à sa parole. Encore, c'est une question de la vie et la mort, peut-être cette année, en 2005. Vous ne pouvez pas vous permettre de penser autre chose. Si vous vous laissez infecter par les autres pensées de ce monde, et ce monde va toujours prêcher un message, pas d'espoir, pas une bonne nouvelle, mais un message de manquement et de brisure. N'est-ce pas vrai? Mais celui qui est fixé dans ses sentiments, celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix dans la seconde. C'était traduit encore plus correctement là, parce qu'il se confie en toi. Proverbe 3, 1 et 2 dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta shalom. Voulez-vous avoir votre shalom augmenté? Il ne faut pas oublier les enseignements de Dieu. Est-ce que vous voyez l'importance de la parole de Dieu? Il y a beaucoup de shalom pour ceux qui aiment ta loi. Alléluia. Donc, Père Céleste, nous te remercions ce matin que tu vas nous aider à bannir l'inquiétude, à faire connaître tous nos besoins à toi et de changer notre façon de penser. Seigneur, on veut être renouvelé, Seigneur. On veut être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a juste un dernier verset que j'aimerais lire avant de fermer dans la prière ce matin. Hébreux chapitre 13, verset 20. Et n'oubliez pas, c'est le livre écrit aux Hébreux. En grec, mais les Hébreux comprenaient le principe de la paix, du shalom. Parce que, vous savez, shalom fait tellement partie de la société, de la culture des Juifs. Quand les gens se saluent dans la rue, ils ne disent pas « bonjour » ou « salut », ils disent « shalom ». Shalom. Ils sont en train d'invoquer une bénédiction les uns sur les autres. Que rien soit brisé dans ta vie, que rien manque dans ta vie. Shalom. N'est-ce pas bon? Shalom. Et ici en Hébreu, chapitre 13, et encore, c'est écrit aux Hébreux qui se saluent avec ce terme shalom à tous les jours. Que le Dieu de shalom, que le Dieu de paix, que le Dieu qui fait en sorte que rien n'est brisé, rien manque dans votre vie, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Ça, c'est vraiment le but de ce message aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Dieu veut vous donner le shalom? Pourquoi est-ce qu'il veut que rien soit brisé, qu'il rien manque dans votre vie? Parce qu'il veut vous rendre capable d'accomplir toutes ses bonnes œuvres et d'accomplir sa volonté ici sur la terre. Ce n'est pas égoïste. Mais Dieu veut que vous soyez capable de faire sa volonté. Et si vous êtes brisé, et si vous manquez la provision, vous ne serez pas capable de faire sa volonté. Amen? Donc, réveillez-vous un peu. Parce que cette année, c'est une année de shalom pour vous, si vous voulez. Amen? Et le diable aimerait vous mentir en disant, mais vous ne vivrez jamais dans le shalom. Vous allez toujours manquer, vous allez toujours avoir des choses brisées dans votre vie, c'est votre héritage. C'était comme ça pour vous toute votre vie, c'était comme ça pour vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, habituez-vous. Mais Dieu est en train de dire, le Dieu de shalom, il va vous rendre capable de faire sa volonté et d'accomplir toutes ces bonnes œuvres qu'il a préparées avant la fondation du monde. Amen. Pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable. Est-ce que vous voulez que Dieu fasse en vous ce qui est agréable à lui? Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle, des siècles. Amen. Amen. Merci Père Céleste. On va se lever debout ce matin. Nous te remercions pour la paix, le shalom. J'aimerais juste, si vous pouvez juste rester une minute de plus, on va finir dans la prière ce matin. J'aimerais prier sur cette assemblée. Et on veut invoquer ensemble la paix de Dieu sur nous, le shalom de Dieu sur nous. Je ne veux pas que ça soit un message qui va entrer dans une oreille puis sortir par l'autre, mais on veut que ça descende jusqu'à notre cœur pour qu'on soit convaincu que Dieu est bon, il est un Dieu de shalom, il nous aime tellement. Que Dieu ne changera jamais. Quand il a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin, Il n'y avait rien de brisé, rien manqué pour Adam et Ève, jusqu'au moment où le péché est entré. Le péché est entré, tout était brisé, les choses commençaient à manquer. Mais Jésus, le deuxième Adam, est venu pour restaurer la paix. Il est le prince de la paix. Paix sur la terre. Rien de brisé sur la terre. Rien qui manque sur la terre. Ça, c'est une journée qui s'en vient quand Jésus va revenir, rétablir son trône à Jérusalem, régner pendant 1000 ans et nous allons régner avec lui. Mais jusqu'à ce jour, nous sommes bénis aujourd'hui de faire partie d'une famille. Et même si nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes nés d'en haut. Nous avons une résidence en haut. Nous sommes citoyens du ciel. Et même ici sur la terre, on peut avoir un petit avant-goût de ce Dieu de shalom et ce royaume de shalom. On peut vivre dans la paix. On peut rechercher la paix et vivre dans la paix. Et Père Céleste, au nom de Jésus, je déclare shalom sur cette église cette année. Seigneur, je prie que chaque cœur puisse s'ouvrir maintenant pour recevoir le shalom de Dieu. Le shalom qui dépasse toute connaissance, toute compréhension, qui est au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer ou demander. Shalom. Bannir l'inquiétude. Apprends-nous à faire connaître nos besoins à toi, Seigneur. Apprends-nous à penser comme tu veux qu'on pense. Pensez, Seigneur, shalom. Alléluia. Je prie avec moi. Père Céleste, tu es le Dieu de shalom. Et je suis un messager de shalom. Tu m'as appelé à apporter la paix dans ce monde bouleversé. Mais avant d'apporter la paix, il faut que je vive dans la paix. Je reçois la paix. Shalom. Rien de brisé et rien qui manque dans ma vie, dans ma famille, dans mon église. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Père Céleste. Shalom. Juste avant de terminer, on va faire un dernier chant. Je tourne.